je vous prie.
Bonjour mesdames et messieurs, je remercie beaucoup ATTAC Genève de nous avoir invités, madame Zaki et moi-même, pour ce débat. C'est assez rare ce genre de débat, donc j'espère que ça vous intéressera. En tout cas moi, ça m'intéresse beaucoup de débattre avec madame Zaki qui, disons, dans le champ médiatique tel que je le connais en Suisse romande, est ce que j'appellerais une journaliste tout à fait intéressante et tout à fait passionnante à lire. Ça va pas ? Il y a un problème ?
Ça va ?
Bien. Et c'est suffisamment rare pour être souligné parce que, disons, sur le secret bancaire, la plupart de ce à quoi on doit, de ce dont on doit se contenter, c'est plutôt de la propagande de bas étage ou de la mythologie de bas étage. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas très intéressant. Donc, on m'a posé trois questions. Vous avez vu sur l'affiche, il y avait trois questions posées. Moi, je suis un bon élève, donc j'ai répondu aux trois questions. Et voilà à peu près ce que ça donne. Première question, à quoi le secret bancaire a-t-il servi et à quoi sert-il maintenant ? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner un premier point. C'est que depuis très longtemps, depuis des décennies, celles et ceux qui défendent le secret bancaire, c'est-à-dire bien évidemment les milieux bancaires eux-mêmes, mais aussi une large partie du spectre politique suisse, répètent sur de nombreux tons, sur nombreuses façons, que toute atteinte au secret bancaire, toute remise en question de ce secret aurait des conséquences dramatiques sur la Suisse dans son ensemble. La première trace d'une telle affirmation, c'est en 1920 que je l'ai trouvée dans un débat au Conseil national où les députés socialistes, mais non seulement les députés socialistes, mais ce qui est plus étonnant, les députés de la paysannerie, demande la levée du secret bancaire. Il y a donc un très gros débat au Conseil national sur cette question et le ministre des Finances de l'époque leur répond en substance que, je le cite, « avant 10 jours, des milliards passeraient la frontière, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour la Suisse ». Fin de citation. Donc vous voyez que ce type d'affirmation est très ancien et je ne vais pas multiplier les citations, mais sachez qu'en 2001, pour prendre un exemple, un important banquier déclare que toute atteinte au secret bancaire, je le cite, serait une catastrophe pour la place financière qui se paierait par des pertes massives d'emplois. Fin de citation. Au même moment, le journaliste Marianne Stepinski va jusqu'à parler de, je le cite, « survie même de notre industrie bancaire ». Toujours au même moment, la même année 2001, le professeur d'économie assez connu de Lausanne, Jean-Christian Lamblay, publie une étude d'une centaine de pages intitulée « Le poids des places financières suisses, genevoises et lémaniques », au terme de laquelle il arrive à la conclusion qu'une atteinte au secret bancaire aurait, je le cite, des conséquences catastrophiques pour la Suisse. Fin de citation. Il continue en disant que des dizaines de milliers d'emplois seraient supprimés, qu'il faudrait, je le cite à nouveau, redimensionner fortement l'État social. Fin de citation. Et le professeur Lamblay termine sur cette vision apocalyptique auquel je pense que vous serez sensible dans cette salle et dans ce lieu, puisqu'il dit qu'au cas d'atteinte au secret bancaire, il faudrait même, je le cite, fermer Genève. Tout récemment, en février 2009, Yvan Pictet a déclaré qu'en cas d'abrogation, et là on n'est plus dans une atteinte profonde au secret bancaire, mais en cas d'abrogation de la distinction entre fraude et évasion fiscale, une thématique dont il va être abondamment l'objet ce soir, la place financière serait, je le cite, réduite de moitié. Depuis, disons que je travaille sur cette question, c'est-à-dire depuis une bonne vingtaine d'années, bientôt 30 ans, je dis et je répète que ces affirmations sont des affirmations propagandistes, que ce catastrophisme n'est pas justifié. Et bien évidemment, on pourra en revenir là-dessus dans la discussion, mais je crois qu'aujourd'hui, on a une démonstration pratique du fait que ce catastrophisme n'était pas justifié, puisqu'une brèche, et une brèche assez sérieuse, on y reviendra, a été ouverte durant cette dernière année dans le secret bancaire suisse, et qu'on peut donc mesurer maintenant, une année et demie après, si cette brèche a eu des conséquences catastrophiques, et que je crois que la réponse est un non clair et net. La gestion de fortune se porte plutôt bien en Suisse. Les chiffres de la Banque nationale suisse pour l'année 2009 montrent que les dépôts étrangers dans les banques suisses, à l'exception de l'UBS, n'ont pas diminué, mais ont augmenté. Il y a eu afflux net de l'étranger de capitaux étrangers dans les banques suisses en 2009 pour un montant de l'ordre de 120 milliards de francs. Et ironie de l'histoire, parmi les principales banques gagnantes au deuxième rang ou au troisième rang, je ne me rappelle plus très bien, figure précisément la banque de Ivan Pictet, celui qui prétendait que la place financière serait réduite de moitié. À quoi le secret bancaire sert-il ? Pour comprendre le secret bancaire, il faut se placer dans une perspective de très longue durée. Il faut comprendre une chose, c'est que depuis la fin du 19e siècle, ou disons le tournant du 19e au 20e siècle, les banques suisses, qui avaient déjà atteint une taille, disons, relativement importante, mais disons, qui jouaient en Europe un rôle de junior partner vis-à-vis des banques allemandes ou vis-à-vis des banques françaises, ces banques suisses ont cherché tout à fait consciemment à se positionner sur le marché très lucratif de la fraude fiscale internationale. On peut même dater très précisément le moment où, disons, elles ont commencé à se positionner de manière claire sur ce marché, c'est l'année 1895. Pourquoi 1895 ? Parce que le gouvernement introduit cette année-là un impôt progressif sur les successions, quelque chose de tout à fait nouveau dans le spectre fiscal européen. Et aussitôt, les banquiers des deux petits pays voisins de la France, d'un côté les banquiers belges, de l'autre côté les banquiers suisses, ont mis en place et développé un système très ingénieux, celui qu'on appelle du compte joint, qui permettait aux citoyens fortunés de France d'échapper à cet impôt. Et donc, dès 1895, il y a afflux de capitaux français fraudant l'impôt sur les successions en Suisse, et très rapidement, donc vous voyez que toute cette histoire est séculaire, extrêmement rapidement, dès 1902-1903, on assiste aux premières protestations, aux premières attaques, aux premières critiques de la part du gouvernement français à l'égard du gouvernement suisse qui lui reproche les montants importants que la Suisse permet de frauder par cette utilisation du compte joint. Cette stratégie de transformation de la Suisse en un paradis fiscal a connu une formidable impulsion avec la Première Guerre mondiale. Je vous donne un seul chiffre pour que vous compreniez l'ampleur des changements dans le paysage fiscal européen et même mondial qu'a entraîné la Première Guerre mondiale. En 1913, avant la Première Guerre mondiale, le taux maximum de l'impôt sur le revenu en France atteint 4%. Ça, c'est le maximum du taux de l'impôt sur le revenu. En 1925, ce même taux atteint 94%. Donc, l'évolution est fantastique, l'augmentation de la pression fiscale est fantastique, et pas seulement en France, mais dans tous les pays voisins de la Suisse qui ont été touchés par la Première Guerre mondiale, qui ont participé directement à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire non seulement la France, mais l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, et même des pays plus lointains comme la Grande-Bretagne. Et donc, dès la Première Guerre mondiale, ce que certains appellent ce cannibalisme fiscal qu'exercent les banques suisses pour attirer les gens fortunés, pas seulement d'ailleurs les gens fortunés, mais également leurs capitaux, et également attirer les entreprises, les sièges des entreprises, les holdings, etc., ce cannibalisme fiscal s'accélère de manière, disons, très importante sous l'influence de cette hausse très très forte de la fiscalité européenne. Et dès la fin de la Première Guerre mondiale, c'est logique aussi, les attaques venant des autorités étrangères contre le cannibalisme fiscal de la Suisse vont devenir beaucoup plus intenses. Alors un exemple extrêmement peu connu, mais qui est d'une actualité brûlante, c'est ce qui se passe au sein du comité fiscal de la Société des Nations. La Suisse adhère, comme vous le savez, à la Société des Nations en 1920, et il y a un comité fiscal qui regroupe tous les membres de la Société des Nations, et ce comité fiscal, dès le début des années 20, va commencer à élaborer ces fameuses conventions de double imposition dont on parle tant aujourd'hui. Et les représentants de la France et de la Belgique au sein de ce comité fiscal attaquent assez durement la Suisse en disant « Vous devez, dans les conventions de double imposition que nous mettons sur point et que nous allons signer entre les différents pays membres de la SDN, vous devez accepter l'échange d'informations fiscales, si vous voulez, la transparence fiscale entre les différents fiscs, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'échange automatique d'informations. Et évidemment, les Suisses, les représentants suisses vont mener une lutte féroce pour que ces projets avec succès, pour que ces projets de la SDN n'aboutissent pas. Dès les années 20, ces pressions vont aussi prendre des formes un peu plus musclées. Je n'ai évidemment pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais sachez que dès les années 20, les gouvernements étrangers utilisent les différentes méthodes qui sont utilisées durant ces dernières années, espionnage bancaire, tentative de corruption d'employés des banques suisses, etc., etc. Donc tout ce qu'on vit actuellement, absolument rien de nouveau. En revanche, c'est nouveau pour les années 20 et ces tentatives de pression musclée de gouvernements étrangers, en particulier les tentatives d'espionnage des banques suisses, vont fortement désécuriser la clientèle étrangère des banques helvétiques. Et c'est en large partie pour reconsolider la confiance de cette clientèle que les autorités fédérales vont introduire en 1934 le fameux article 47 dans la loi sur les banques. Et avec cet article 47 qui poursuit pénalement, qui considère la violation du secret bancaire comme un délit pénal poursuivi d'office de la part des autorités suisses. Alors, dès ce moment, la Suisse érige, si vous voulez, une sorte de muraille autour de ses banques pour protéger la fraude fiscale. Et dès ce moment, la Suisse devient, à l'échelle internationale, le pays où le secret bancaire est de loin le plus bétonné. Il ressort donc de ce que je viens de dire que depuis longtemps, le secret bancaire constitue une pièce importante d'un dispositif qui vise à faire de la Suisse un paradis fiscal pour attirer les fortunes et aussi attirer les entreprises du monde entier. Et à ce propos, j'aimerais discuter quelques instants un autre mythe que les défenseurs du secret bancaire avancent depuis des décennies pour le défendre. L'idée selon laquelle le secret bancaire permettrait à tout le monde, si vous voulez, au citoyen lambda, à la vendeuse de la Migros, comme à l'actionnaire de Boeing ou à l'actionnaire de Novartis, de frauder le fisc. Alors évidemment, les milieux bancaires comme les cercles, les autorités fédérales se gardent depuis des décennies de donner des chiffres qui permettraient d'étayer cette affirmation. Mais il y a une chose assez intéressante dans la crise actuelle du secret bancaire, donc depuis une année et demie, c'est qu'elle fait sortir pas mal de chiffres sur la fraude, en particulier de la part des autorités étrangères, les autorités américaines, les autorités allemandes ou françaises, et tous ces chiffres convergent vers l'idée que ceux qui profitent du secret bancaire pour frauder le gens, ce n'est pas du tout le citoyen lambda, ce sont des gens riches, voire même très riches, en moyenne, des gens qui ont des avoirs en banque supérieurs, égaux ou supérieurs à 2 ou 3 millions de francs. Et il y a un autre indice qui montre à quel point ce n'est pas du tout la clientèle normale des banques, le citoyen lambda qui est concerné par le secret bancaire. C'est un chiffre très intéressant qui est sorti à propos des dossiers que la Suisse s'est engagée à livrer aux États-Unis sur ces fameux 4500 clients américains de UBS. Alors, vos dossiers fiscaux, disons le dossier fiscal d'un citoyen lambda et la déclaration d'impôt, le dossier fiscal est de l'ordre de quelques dizaines de pages. Par exemple, le mien est de l'ordre, de, si je me rappelle bien, d'une quinzaine de pages, quelque chose comme ça. Ça peut être fait 20 pages. Là, les dossiers qui vont être transmis, celui qui a le moins de pages, c'est 500 pages. Celui qui a le plus de pages, c'est 3000 pages. Bien, vous comprenez immédiatement avec ces chiffres que ce n'est pas du tout des citoyens lambda qui sont concernés par ces affaires de fraude fiscale, mais que c'est bien et bien, ce que je répète depuis longtemps, et ce que, disons, prouve, mais je ne veux pas entrer dans le détail, la seule enquête sérieuse qui ait jamais été faite en Suisse sur la fraude fiscale, le fameux rapport Burknecht, du conseiller fédéral Burknecht, un catholique conservateur fribourgeois qui était un peu en dehors du monde et qui produit un rapport intéressant sur la fraude fiscale en 1962. Inutile de vous dire qu'il a été immédiatement viré du conseil fédéral. Il a perdu son emploi, enfin sa place au conseil fédéral, 3 mois plus tard. Mais cette enquête montre aussi que les bénéficiaires essentiels de la fraude fiscale et du secret bancaire en Suisse sont, disons, des gens aisés, très riches. Deuxième question qui a été posée, est-ce que la pression internationale a modifié la position de la Suisse par rapport au secret bancaire? Je résume, jusqu'à maintenant, la Suisse a livré 290 noms de clients américains de l'UBS au fisc. Elle va, selon toute probabilité, livrer 4500 noms, selon l'accord qui a été conclu en août 2009. Et en outre, elle a signé jusqu'à maintenant 24 nouvelles conventions de double imposition, ces fameuses conventions qui suppriment la distinction entre fraude et évasion fiscale. Est-ce que ces concessions qui ont été faites jusqu'à maintenant signifient que le secret bancaire est mort? Moi, je répondrais non. Je serais beaucoup plus prudent sur cette fameuse mort du secret bancaire et je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi je pense que le secret bancaire jusqu'à maintenant est loin d'être mort. Première raison, ça va de soi, on pourrait y revenir dans la discussion, mais quand vous êtes historien et que vous constatez que le secret bancaire est l'objet d'une bataille intense, souvent souterraine, mais non moins intense entre les autorités suisses et les autorités de nombreux pays étrangers depuis des décennies, depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire depuis un siècle, et que la Suisse, dans de nombreux cas, a dû reculer, mais dans de nombreux cas, a pu rétablir l'équilibre, recolmater les brèches, regagner une partie du terrain perdu, voire même, dans certaines occasions, regagner entièrement le terrain perdu, comme par exemple au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Disons, cette profondeur historique vous rend beaucoup plus, prudent, ou lorsque, disons, on affirme un peu vite, à mon avis, que le secret bancaire est mort. Fondamentalement, ça va dépendre si la Suisse va continuer à faire des concessions et si on va aller vraiment vers la mort. J'expliquerai dans un instant ce que ça serait, la vraie mort du secret bancaire, mais ça va dépendre de l'évolution des rapports de force entre la Suisse et, disons, les principaux pays qui l'attaquent sur ce plan. Et on peut assister à des modifications des rapports de force dans les mois et les années qui viennent. Ça va dépendre de nombreuses variables. Première de ces variables, ça va dépendre bien évidemment de l'évolution de la situation économique et financière internationale. Ça va dépendre de savoir si les États-Unis et d'un côté et, disons, les principaux pays de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, vont continuer à véritablement former une sorte de front uni pour attaquer le secret bancaire. Bref, ça va dépendre de toute une série de variables et il n'est pas du tout sûr que ces variables évoluent dans les années qui viennent au détriment de la Suisse. On pourra en discuter tout à l'heure. Deuxièmement, vous devez déjà comprendre que la Suisse a regagné du terrain durant ces derniers mois. Je vous donne un exemple. La nouvelle convention de double imposition signée avec les États-Unis. Elle n'est pas si malheureuse pour les banques suisses. Premièrement, dans l'ancienne convention, les USA, lorsqu'ils demandaient l'entraide de la Suisse, n'étaient pas obligés de mentionner le nom du contribuable. Dans la nouvelle convention, les États-Unis sont obligés de désigner le nom du contribuable. Donc, disons, c'est une petite amélioration, j'en ferai pas quelque chose de très important, mais une petite amélioration significative du point de vue suisse. Et surtout, quelque chose sur laquelle personne, jusqu'à maintenant, malheureusement non plus dans les médias, a attiré l'attention, c'est qu'en échange de cette nouvelle convention de double imposition, les Suisses ont réussi à obtenir que soit introduite une procédure d'arbitrage tripartite entre le fisc suisse, le fisc américain et les avocats de la multinationale concernée lorsque le fisc d'un des deux pays, donc soit de la Suisse, soit des États-Unis, conteste ce qu'on appelle les prix de transfert fixés par la multinationale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Jusqu'à maintenant, quand une multinationale établie en Suisse évadait le fisc à travers ses prix de transfert, en fixant des prix de transfert, bien, qui est un moyen, qui est le moyen central d'évasion fiscale à l'échelle internationale. Bien, lorsqu'une multinationale établie en Suisse fixait ses prix de transfert et que le fisc américain n'était pas d'accord, il n'y avait pas cette procédure d'arbitrage. Le fisc américain avait la possibilité de déterminer lui-même le prix de transfert. Donc, que les Suisses aient obtenu maintenant que ça soit une procédure soumise à l'arbitrage, à mon humble avis, et je ne suis pas le seul, je pense que le professeur Xavier Auberçon et l'avocat Xavier Auberçon, hein, vraiment un spécialiste de premier plan de la fiscalité en Suisse et une personne d'une redoutable intelligence, s'en est félicité. Et donc je pense que là derrière, il y a un enjeu tout à fait important. Ensuite, il faut remarquer que la Suisse a signé 24 nouvelles conventions de double imposition, mais pour l'essentiel, je dirais même 23 pays sur 24 avec des pays industrialisés jusqu'à maintenant, exception faite du Mexique. Il y a toute une série de pays pauvres ou de 10 pays pauvres, ou de pays, entre guillemets, dépendants, je ne sais pas comment vous les appelez, ça m'est égal, on sait à peu près de quoi on parle, par exemple le Nigeria, bien, qui sont des pays, disons, avec des ressources très importantes, mais des ressources qui sont massivement évadées, avec lesquelles la Suisse n'a pas signé de convention de double imposition, et je ne suis pas du tout sûr qu'elle va en signer dans les années qui viennent. Et donc, disons, les capitaux qui viennent de ces pays, il n'est pas du tout sûr que, eux, la distinction entre fraude et évasion soit supprimée dans les mois ou les années qui viennent. Troisième chose, vous le savez toutes et tous, c'est probablement un des aspects les plus choquants de la situation actuelle, c'est que si cette distinction a été supprimée pour les fiscs étrangers, elle est maintenue pour le fisc suisse. Je trouve ça juste sidérant. Sidérant du point de vue juridique. Heureusement, il y a encore, j'ai l'impression, quelques juristes dans ce pays qui ont un minimum, disons, de respect du droit, parce que ça veut dire, cette situation, que vous donnez plus de pouvoir au fisc étranger qu'au fisc suisse. Je pense qu'à moyen terme, cette situation-là est absolument intenable. Je pense donc que les autorités suisses vont être obligées, tôt ou tard, de supprimer cette distinction en Suisse même. Mais attention, les milieux patronaux, Économie Suisse, Association Suisse des Banquiers, ont déjà dit « nous sommes d'accord » ou disons « nous pouvons envisager de supprimer cette distinction, mais essaye évidemment d'obtenir une concession en échange et disons la concession qu'ils demandent ou qu'ils avancent prioritairement jusqu'à maintenant, c'est une amnistie fiscale générale en Suisse, c'est-à-dire un blanc-seing donné aux fraudeurs. Quelque chose, pour moi, du point de vue et politique et économique et du strict point de vue fiscal, quelque chose d'une injustice totale et une aberration du point de vue fiscal. Dernière chose que j'aimerais dire, la suppression de la distinction entre fraude et évasion fiscale, ce n'est qu'une brèche dans ce que j'appelle la muraille extérieure du secret bancaire. Ça signifie, premièrement, pas du tout que les fiscs étrangers pourront, sans autre, obtenir facilement des informations de la part des banques et des autorités suisses. Je vous passe les détails. Là, on aura justement ces négociations très compliquées. Là, les rapports de force vont s'exprimer dans la pratique, dans les mois, dans l'application de ces nouvelles conventions. On verra ce que ça donne dans la réalité, pas seulement sur le papier. Mais disons, à première vue, il n'est pas du tout. J'ai suffisamment d'expérience de la chose pour, disons, penser que ça ne va pas être aussi simple que ça pour les fiscs étrangers d'obtenir des informations. Mais les autorités suisses refusent l'échange automatique d'informations. Jusqu'à maintenant, ils ont dit niet à cette demande-là, même si un certain nombre de banquiers, un certain nombre de politiciens, un certain nombre de journalistes, je crois Madame Zaki d'ailleurs, pensent qu'on devrait aller, que la Suisse, les autorités suisses feraient mieux d'aller jusqu'à l'échange automatique d'informations. Évidemment, de nouveau, en monnayant cet échange automatique d'informations, en demandant deux choses en concession, comme concession, premièrement, un accès libre, si vous voulez, pour les prestataires de services financiers au marché européen, ça concerne les banques, mais surtout les sociétés d'assurance, et deuxièmement, en essayant d'obtenir des pays étrangers qui fassent eux une amnistie fiscale de telle manière à pouvoir régulariser les fraudeurs étrangers du fisc actuel en Suisse, donc de régulariser la situation des dizaines de milliers de fraudeurs français, italiens, beaucoup d'Italiens, enfin je ne vais pas revenir, il y a une thèse qui va sortir là-dessus récemment qui va donner des chiffres à tomber par terre sur la fraude fiscale italienne, mais bon, on ne va pas discuter de ça, bref. Donc, échanger cette concession, donc échanger cet échange automatique d'informations contre un certain nombre de concessions, et entre nous soit dit, ça ne veut pas encore dire que l'échange automatique d'informations, comme on le dit souvent, comme on le prétend souvent, que c'est la mort du secret bancaire. Pour la raison suivante, l'échange automatique d'informations ne porte jusqu'à maintenant que sur les avoirs des personnes physiques et que sur les intérêts des avoirs. Donc, ça ne porte pas sur les avoirs des entreprises et ça ne porte pas sur les dividendes qui sont versés. Et vous imaginez bien que les avoirs des entreprises et les dividendes constituent des montants tout à fait importants. Donc, pour terminer sur ce point, au fond, la vraie suppression, la vraie levée du secret bancaire, ça serait une chose très simple qui était contenue dans la loi fiscale du canton de Fribourg jusque dans les années 20 et qui faisait enrager les milieux bancaires suisses et l'association suisse des banquiers. C'était un tout petit article, l'article 17, qui disait simplement la chose suivante. En fin d'année, si le fisc le juge nécessaire, il est en droit de demander toute information bancaire aux banques sises sur le territoire du canton de Fribourg. Donc un tout petit article très simple et qui est ça, pour moi, la levée ou disons l'inexistence du secret bancaire. Troisième question, je vais prendre encore 2 minutes et terminer là-dessus. Est-ce qu'au niveau mondial, il y a une volonté de freiner l'évasion fiscale? C'est une question extrêmement intéressante. C'est une question non seulement extrêmement intéressante, mais extrêmement compliquée, complexe. Je vais essayer, disons, de répondre à cette question avec une sorte d'équation. Je dirais que, je vous demande un tout petit peu de concentration, parce que l'équation est peut-être un petit peu compliquée. Dès le moment, et je désigne un moment assez précis, c'est disons en Europe ou même à l'échelle internationale dans les pays économiquement développés, la période qui va de 1880 à la fin de la Première Guerre mondiale. Dès cette période où, suite aux luttes non seulement des salariés et de leurs représentants, ce que j'appelle le mouvement ouvrier, la social-démocratie et les syndicats, pour simplifier, mais aussi de la paysannerie. Parce que si vous regardez attentivement, les représentants de la paysannerie, pendant très longtemps, dans de nombreux pays, étaient absolument opposés au secret bancaire. L'ancêtre de l'UDC, le PAB, le Parti des paysans, artisans et bourgeois, était un opposant assez clair au secret bancaire jusque après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui posait de gros problèmes d'ailleurs à l'Association suisse des banquiers ou à l'ancêtre de l'économie suisse qui ont été obligés de lui donner des grosses subventions paysannes agricoles pour gagner la paysannerie à la défense du secret bancaire. Mais disons, là il y avait un gros problème, disons, de leur point de vue. Donc, dès le moment où il y a ces luttes pour dire... On veut changer le système fiscal du 19e siècle, le système fiscal du capitalisme manchestérien, du capitalisme libéral, qui faisait reposer la pression fiscale essentiellement sur les salariés et les pauvres, puisque c'était essentiellement des taxes indirectes, à 90% des taxes indirectes. Dès que ces luttes des salariés et des paysans parviennent à déplacer la charge fiscale un peu en direction d'autres couches sociales, les couches plus aisées, voire même les couches capitalistes. Alors, dès ce moment-là, du point de vue des milieux capitalistes, on a essayé de frauder le fisc. La fraude fiscale est devenue une composante importante du comportement économique, social, politique et même culturel, si vous voulez, de ces couches. Et donc, dès ce moment-là, elles ont eu une certaine tolérance qui a varié au cours du XXe siècle vis-à-vis de la fraude fiscale et vis-à-vis de l'évasion fiscale. Tant que la pression fiscale a été assez importante sur ces couches, Ces couches, donc, avaient une attitude vis-à-vis, relativement laxiste vis-à-vis de la fraude et de l'évasion fiscale. Mais cette situation-là a changé, disons, durant les 20 ou 30 dernières années, sous l'influence de ce qu'on appelle généralement le néolibéralisme, c'est-à-dire le changement à l'échelle mondiale des rapports de force sociaux et politiques, et qui a entraîné une baisse considérable de la pression fiscale sur ces couches aisées ou capitalistes. Alors, je vous donne un seul exemple, parce que vous avez des statistiques merveilleuses là-dessus, dans un seul pays, malheureusement les autres pays, ce n'est pas très bon, en Suisse, pourquoi vous parlez de la Suisse, où il n'y a pas de statistiques sur ces questions-là, mais les statistiques américaines sont excellentes. Et si je vous donne les taux d'imposition de... par exemple, de l'impôt sur le bénéfice des entreprises, vous voyez immédiatement de quoi je veux parler. Le taux maximum d'imposition des bénéfices des entreprises aux États-Unis, c'est 1% avant la Première Guerre mondiale. Donc, autant dire rien. Ça passe à 12% en 1918, sous la pression Première Guerre mondiale et des luttes ouvrières aux États-Unis et de la paysannerie aux États-Unis. Puis, ça bondit encore aux environs de 50% après la Deuxième Guerre mondiale, 50%. Et ce taux maximum va être maintenu jusqu'à la fin des années 1970, puis va être progressivement diminué et actuellement il se situe aux environs de 35%. Même chiffre, mais cette fois-ci du taux maximum de l'impôt sur les revenus, dont le taux maximum sur les plus hauts revenus, si vous voulez, passe de 7% avant la Première Guerre mondiale à 77% en 1918, puis il oscille entre 70 et 90% dans la période qui va de 1945 à 1980. Vous avez élection d'un des principaux représentants du néolibéralisme, qui est Ronald Reagan, en 1980, et ce taux chute depuis, il est redescendu aujourd'hui à un niveau à peu près moitié de ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un niveau de 35%. Et si je devais terminer et conclure en un mot, dans des circonstances, dans un monde, dans le monde actuel, où la pression fiscale sur les couches aisées, très aisées, sur les milieux capitalistes, sur les bénéfices des entreprises, sont sur une pente descendante, alors, j'aurais tendance à dire que les représentants de ces milieux peuvent se montrer un peu plus, disons, combatifs vis-à-vis de la fraude fiscale, disons, combattre de manière un petit peu plus ferme la fraude fiscale à l'échelle internationale. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à Sébastien Gay pour cet exposé très intéressant. Et si vous avez des questions, veuillez les garder, s'il vous plaît. On prendra tout ensemble après le deuxième exposé.